Alors, bonjour Claude.
Salut Sébastien.
Alors, pour notre troisième entrevue pour la réplique ce matin, on va parler du travail de justice mondiale du SCFP. On va commencer sur la question brûlante de la Colombie. Le SCFP consacre beaucoup d'attention à la question des droits humains en Colombie. Et peux-tu nous expliquer un peu quelle est la situation là-bas, puis quel rôle est joué par le SCFP dans son travail de justice mondiale là-bas?
Oui, la question est brûlante, effectivement. Elle est même tuante pour beaucoup de travailleurs et toute catégorie de civils, de citoyens en Colombie. Mais juste pour reculer un petit peu, pour mettre ça en contexte, parce que là, on saute littéralement dans le feu de l'action en parlant de la Colombie. Pourquoi, comme syndicat, on se mêle de ces questions-là? Parfois, on se fait poser la question. On devrait s'occuper de nos milieux de travail. Mais oui, on s'en occupe de nos milieux de travail quand on s'occupe de ce qui se passe en Colombie. Puis là, le meilleur exemple que je pourrais donner, c'est récemment, la Cour suprême du Canada a donné raison à 45 000 travailleurs du SFP qui sont dans la santé, le syndicat des employés d'hôpitaux en Colombie-Britannique, qui avaient contesté le Bill 29, une loi draconienne qui avait été dictée par le gouvernement Campbell lors de son arrivée au pouvoir, qui mettait fin à toute négociation, péremptoirement, sans explication. En partie, la décision disait, vous savez, le Canada a signé des ententes, des conventions internationales. En Suisse, par exemple, le droit d'association, le droit de négociation. Il y a une constitution au Canada. Ça devrait être respecté. Si vous le signez en Suisse, ça devrait vouloir dire quelque chose ici. Ça devrait vouloir dire quelque chose partout. Et c'est en partie pour ça qu'on a gagné. Donc, quand on signe des conventions, des standards, c'est qu'on cherche à les établir, ces standards-là, dans la vraie vie, au Canada et partout ailleurs dans le monde. Alors, me voici en Colombie, et c'est de ça que je voudrais parler, puisque le Canada nous oblige à en parler. Parce que le gouvernement Harper s'apprête, avec un projet de loi qu'il a mis sur la table pour les parlementaires, à faire en sorte qu'un traité de libre-échange qu'il a signé soit mis en vigueur. Un traité de libre-échange entre la Colombie et le Canada. C'est un gouvernement minoritaire, une chance, parce que ça avait été un gouvernement majoritaire, ça serait déjà fait. On pourrait plus reculer, ce traité existerait. C'est un traité donc qui a été conclu le 7 juin 2008. Il a été signé par le gouvernement le 21 novembre, mais le projet de loi est toujours sur la table pour étude, heureusement. Et je dis heureusement parce que même Obama, en pleine campagne, alors que c'était serré, dans un débat avec McCain, son opposant, à propos du traité de libre-échange de Colombie, possible entre les États-Unis et la Colombie, il avait dit « Ouais, mais ne devrait-on pas parler de la situation des travailleurs, là? J'entends dire que les travailleurs meurent, là. » C'était éloquent. Éloquence qui manque, malheureusement, grandement au gouvernement canadien, au gouvernement Harper, parce que le gouvernement là-bas, en Colombie, tue les travailleurs.
Quand on dit que les travailleurs meurent là-bas, ce n'est pas des accidents, on ne parle pas nécessairement d'accidents.
Ce n'est pas des accidents de travail. Non, non. Et voici quelques chiffres. Je suis un trésorier, je vais vous donner quelques chiffres. Mais il ne s'agit pas, là, effectivement, d'état financier, malheureusement. C'est le pays au monde qui est le plus dangereux pour des travailleurs et des syndicalistes. Il y a plus de travailleurs et de syndicalistes qui meurent en Colombie que tous les autres pays au monde réunis. Alors, il n'y a pas le numéro un. Il y a la Colombie d'une part et le reste du monde. Depuis 1991, tous les chiffres sont à l'effet qu'il y a autour de 2200. J'entends rarement des chiffres moins que ça. Des fois, j'entends 2400, 2500. Je vous dirais 2200 travailleurs qui sont morts depuis 1991, tués, assassinés, kidnappés, disparus. Depuis que le gouvernement Uribe est en place en 2002, il y a au-delà de 600 travailleurs qui sont décédés. Donc, ça continue. Le Washington Post, qui n'est pas le journal le plus à gauche au monde, nous disait récemment que 97% des meurtres en question n'avaient jamais été résolus. 97%. Il notait aussi, donner d'autres chiffres, que seulement 30 condamnations à partir de ces 2200 meurtres-là, disparitions, seulement 30 condamnations avaient eu lieu. Si vous faites un pourcentage du 2200 avec les 30, c'est 1,5%.
Il y a donc un pattern de laisser-faire, au pouvoir de complicité.
Et c'est pas juste laisser-faire. C'est Il y a ça. De la preuve éloquente là aussi, des commissions internationales, pas syndicales, à l'effet de la complicité de haut placé, de sénateurs, de ministres. C'est un traité de libre-échange qui sanctionnerait ça, qui sanctionnerait cette voie-là qui n'est pas démocratique du tout. Le traité de libre-échange, lorsqu'il y a eu un petit peu de pression qui a été appliquée sur le gouvernement Harper à ce sujet, et a convenu d'une petite méthode pour régler le problème. C'est un petit inconvénient, selon Harper, que les travailleurs meurent. Là. Ils ont mis sur pied, je vais vous passer l'expression, un pote. Hein? Ils ont mis dans le milieu de la table un pote, puis ils ont dit, lorsqu'il y aura des meurtres, le gouvernement colombien va payer une amende. Vous savez, on est dans la période de la chasse. Là. Nous sommes en octobre. Au Canada, en octobre, c'est la saison de la chasse à l'orignal. Puis quand il y a des braconniers qui se font pogner à tuer des orignaux, ben ils se font taper ses doigts, puis ils payent des amendes, puis parfois ils sont poursuivis pour beaucoup plus que ce que le gouvernement colombien va être tenu de faire par le gouvernement canadien lorsqu'il va tuer des êtres humains, des travailleurs. C'est incroyable. Puis en plus, le comble de l'ironie, c'est que ce pote-là, cette amende-là, il se la paye à lui-même. C'est un compte conjoint entre le gouvernement canadien et colombien. Pour faire quoi? Pour se sensibiliser lui-même. Alors, il va se payer de la main droite à la main gauche. C'est inacceptable. Pourquoi il fait ça? 5% seulement de la population est syndiquée en Colombie. Et il n'y a, dans les faits, à cause de l'économie souterraine, l'économie au noir, il n'y a dans les faits que 1% des travailleurs qui négocient une convention collective en Colombie. Est-ce que c'est le traité de libre-échange qu'on veut établir avec des mœurs comme ça, qui pourrait à rebours nous revenir dans la face? C'est pas le genre de standard qu'on veut pour nous au Canada non plus. C'est pour ça qu'on se bat si âprement contre le traité de libre-échange dont l'acronyme est l'ALECO, le traité de libre-échange entre le Canada et la Colombie. C'est donc le taux le plus bas de syndicalisation de tout l'hémisphère ouest. Puis on voit déjà des signes annonciateurs. Je ne veux pas non plus enfler l'exemple, mais quand je vois des travailleurs brésiliens qui sont envoyés comme SCAB à Sudbury présentement dans une grève qui a cours avec l'employeur Vale Inco à Sudbury, c'est pas tant les travailleurs brésiliens qui m'énervent, c'est le fait que c'est une compagnie brésilienne qui est habituée à ces standards-là puis sont en train de nous les amener ici au Canada. Et là, je vous parle du Brésil, d'une compagnie brésilienne, mais c'est pas trop loin de la Colombie. Et c'est pas le genre d'affaires qu'on veut voir survenir ici, ni nulle part ailleurs. C'est pour ça qu'on s'en occupe de la Colombie.
Oui, on voit bien le danger à la lumière de vos explications pour les travailleurs canadiens sur les questions de justice mondiale. Et puis si on prend un peu de recul sur la question de la politique étrangère du gouvernement Harper depuis qu'il est au pouvoir depuis bientôt 4 ans, à partir de ce point de vue-là, comment on pourrait décrire les changements qui sont arrivés à la politique étrangère du Canada depuis l'arrivée des conservateurs, puis du point de vue du droit des travailleurs aussi à l'échelle mondiale?
Bien, c'est malheureux. Écoutez, je pourrais répondre à votre question directement en contraposant par l'histoire du SFP ce qui s'est produit depuis une cinquantaine d'années. On a presque 50 ans d'existence, le SFP. Lorsque le SFP a été créé en 1963, le gouvernement Pearson, qui régnait alors, gouvernement minoritaire aussi, il y en a eu plusieurs dans les années 60. Ça n'a pas empêché de faire des bonnes choses. Je vous disais que le traité de libre-échange de Colombie, s'il n'y a pas eu lieu maintenant, c'est parce que c'est un gouvernement minoritaire. Tant mieux. Des années 60, alors que le SFP a été créé, on a un environnement tout à fait différent. Promotion par le premier ministre de notre pays, l'établissement d'une force neutre de pacification qu'on a appelé les casques bleus. Et les casques bleus ont eu des missions de pacification pendant quelques générations. Ont joué un rôle tout à fait différent mondialement. Alors, je pèse sur le bouton fast forward, si vous passez l'anglicisme, regardez ce qui se passe aujourd'hui. Je vous donnais l'exemple de la Colombie. Quel contraste. Quel contraste malheureux. Ils gomment toutes les différences. Au Mexique, présentement, le gouvernement Calderón, un partenaire justement du libre-échange nord-américain entre le Canada, le Mexique et les États-Unis, ferme boutique d'une société nationale, Luz y Fuerza, que ça s'appelle Lumière et Force, qui génère l'énergie, l'électricité.
Un peu l'Hydro-Québec pour
Mexico, la ville de Mexico, une des deux plus grandes villes au monde. Puis il met à pied 45 000 personnes, il tire dans la foule, on n'entend rien, il n'y a aucune dénonciation. Bien, on n'entend rien. Des dénonciations viennent d'où? Viennent des organisations civiles, viennent des organisations non gouvernementales comme nous, les syndicats. C'est ce qu'on a avec Harper. Nous, on s'est toujours mêlés de Solidarité internationale depuis notre fondation, même du temps justement de Pearson et au-delà, dans les années 70. Grand séisme au Nicaragua, un effort humanitaire mondial. Le gouvernement de l'époque, Somoza, a dilapidé les biens. On s'en est insurgé, on s'en est mêlés. C'était notre affaire. Ça a continué dans les années 80. L'Afrique du Sud, avant qu'elle soit libérée, il a fallu qu'il y ait des mouvements d'existence qui aient été initiés par les Africains du Sud eux-mêmes. Ils ont fait appel à nous. Je me souviens dans les années 80, alors que j'étais un militant dans ma section locale, un hôpital à Montréal, avoir reçu à l'époque le président du syndicat de la santé, des travailleurs de la santé en Afrique du Sud, qui est un syndicat illégal à l'époque. L'acronyme le complexe, le NEHAU, c'était l'organisation en question. Il était venu nous voir pour faire viser plusieurs objectifs, nous sensibiliser, mais aussi apprendre, connaître comment on fonctionne, parce que dans l'illégalité, il n'y avait aucune façon de s'organiser à l'air libre, voir comment dans une société démocratique, qu'est-ce que ça pourrait avoir l'air un syndicat. Et ça leur a été utile par la suite lorsqu'ils ont réussi à mettre fin à l'apartheid. Et dans les années 90, en continuant avec l'exemple de l'Afrique du Sud, ils choisissaient une voie démocratique, mais les années 90, sinistre, vous en souvenez, la Banque mondiale insistait pour que leur modèle soit le modèle économique prévalent. On privatise tout. Et nos syndicats en Afrique du Sud, je dis nos syndicats, je me sens des leurs, résistaient. Et je me souviens à l'époque, le SFP national, je n'étais pas un officier national, mais j'étais bien fier que le SFP national entreprenne des projets de solidarité internationale avec ses syndicats. Et une fois que je suis devenu un officier national, on m'a déjà demandé en Alberta, en Nouvelle-Écosse, à d'autres endroits, qu'est-ce qu'on faisait là-bas et combien d'argent on y mettait. J'avais répondu à l'époque, au tournant du millénaire, qu'on mettait à peu près 20 000 $ de nos cotisations syndicales en Afrique du Sud. Pourquoi? Pour se battre contre la privatisation. La privatisation qui avait lieu là-bas, les atteintes aux services publics, puis comment ça pourrait nous aider aussi. Les aider là-bas, nous aider ici.
Et parce que ça peut souvent être les mêmes acteurs du côté des multinationales, des privatiseurs qui agissent là-bas et qui nous reviennent ici.
Tout à fait. Tout à fait. C'est en fait la même gang, pour le dire simplement. C'est vraiment même multinationales, parfois, qui travestissent les noms, qui ont des subdivisions, des filiales nationales, mais c'est les mêmes compagnies, les mêmes transnationales, même ennemi, même combat. Et je me souviens des réactions, les gens étaient bien contents d'entendre cela. Les gens, nos membres, étaient bien contents. Ils ne pensaient pas que leur argent était dilapidé, qu'il était gaspillé. Alors, c'est un effort continu. Et ça, c'est le national, mais à différents niveaux. En Colombie-Britannique, les membres de la Colombie-Britannique, à travers notre organisation provinciale, SFP Colombie-Britannique, ont mis sur pied un fonds de justice mondiale. Et de longue date, ils ont collaboré, d'égal à égal, en se regardant droit dans les yeux, des partenaires égaux, avec notamment des Cubains, des organisations syndicales cubaines, ou au Honduras, ou au Nicaragua, ou au Guatemala. Ils ont mis sur pied des projets pour s'aider mutuellement. Et j'en suis bien fier, je suis bien fier de rapporter ça. Alors, c'est continu, et maintenant, dans l'actualité, il y a la Colombie, mais vous me poseriez une question, si vous avez encore le temps, y a-t-il d'autres situations? Ben oui, mais je pense que le temps va nous manquer. Je pourrais parler des Philippines. Je pourrais parler de la Birmanie, du Darfour au Soudan et de la République démocratique du Congo. J'en aurais beaucoup à dire parce qu'il y a beaucoup à faire.
On va se garder ça pour une prochaine entrevue. Parfait. Bientôt. Espérons-le. Merci beaucoup.
Merci, Sébastien.